Bonjour à tous, c'est Maud et Juliette et aujourd'hui on vous retrouve pour un nouvel épisode sur le sujet l'insatisfaction au travail et la perte de sens au travail. Alors pourquoi on a voulu vous parler de ce sujet? Parce que on a l'impression que ça concerne énormément de monde, que de plus en plus de personnes se questionnent sur leur domaine de vie professionnel et qu'énormément de personnes n'aiment pas leur boulot. Et le fait est qu'on s'est toutes les deux posé aussi ces questions-là et on s'est toutes les deux reconverties. Et on s'est dit que ce serait intéressant de vous partager eh bien, notre expérience, ce qui nous a en fait aidé à faire le point et puis à passer le cap et à se reconvertir. En tout cas, les outils qui nous ont permis d'y voir plus clair. Du coup, dans cet épisode, on va vous transmettre tout ça. À tout de suite après l'introduction. Bonjour à tous, nous sommes Maud et Juliette, praticiennes en hypnose et en PNL, coach en reconversion professionnelle et en développement personnel.
Avec notre podcast, Mieux chez qui, notre mission est de vous guider dans l'exploration et la découverte de vos territoires intérieurs, pour transformer votre vie à l'extérieur. Nous partageons avec vous nos réflexions et nos outils, pour vous permettre de reprendre votre pouvoir, oser et devenir véritablement acteur de votre vie, celle que vous avez vraiment choisie.
Ici, on va vous parler d'hypnose, de programmation neurolinguistique, de développement personnel et de santé mentale. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à partager vos réflexions et expériences en commentaire et à nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux. On vous remercie de votre présence ici et bonne écoute.
Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve avec Juliette pour vous parler d'insatisfaction au travail. C'est un sujet super chaud en ce moment, on en entend beaucoup parler en France et même à l'étranger, vous avez peut-être entendu parler de la grande démission aux États-Unis. Effectivement, il y a beaucoup de personnes qui sont pas heureux dans leur job ou qui sont en quête de sens. On retrouve ça d'ailleurs même dans les certaines études, pour en citer une, notamment une source INSEE. Que 91% des salariés en fait sont désengagés dans leur travail et s'interrogent sur le sens de leur activité. Effectivement, peut-être vous ressentez ça vous aussi, ce désengagement dans votre travail, ou peut-être que vous avez des gens autour de vous qui sont pas bien. On sait qu'il y a que 13% des salariés qui vont au travail avec le sourire aux lèvres le matin.
C'est quand même dingue.
C'est super dingue. Avec Juliette, en fait, on a vécu ça. Toutes les deux, on a été insatisfaites dans notre travail. Toutes les deux, on s'est levées chaque matin avec la boule au ventre. On a eu envie de vous parler de comment on a réussi à se sortir de
cette insatisfaction.
Ouais, de cette insatisfaction, de ce mal-être. Et comment on a réussi à retrouver le sourire aux lèvres le matin en partant au travail. Et du coup, en échangeant, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas vécu les choses de la même manière. Mais par contre, on a traversé certains points communs et
certaines clés un peu nécessaires. Mais c'est vrai que c'est comme si on était passé par les mêmes étapes.
Ouais, comme si on avait réussi à modéliser les grandes étapes par lesquelles on passe ou on peut passer quand on est dans une reconversion professionnelle ou en tous les cas dans un moment où on se questionne sur sa vie professionnelle.
Donc là, dans cet épisode, on va vous parler de ces quatre étapes. Ce serait un peu comme si on vous transmettait nos quatre conseils. Alors, ça ne tient qu'à nous, hein, mais c'est quatre conseils qui vous permettraient, si vous êtes insatisfait au travail ou si vous voulez aider quelqu'un qui aujourd'hui est en perte de sens au travail. Voilà, quatre conseils, quatre clés pour vous aider à vous sortir de cette situation. Et la première clé. Le premier conseil qu'on pourrait donner, c'est prendre du recul. Prendre du recul sur la situation. Parce que quand on a la tête dans le guidon, quand on est à fond dans le boulot, mais qu'en même temps on est insatisfait, si on ne prend pas le temps de s'extraire un petit peu de cette situation, on n'arrivera jamais à réfléchir correctement, on peut prendre des décisions impulsives. Du coup, pour vous donner un exemple de ce que pourrait être une prise de recul, personnellement, qu'est-ce que j'ai fait quand je me suis retrouvée insatisfaite dans le travail dans lequel j'étais, donc j'étais en médecine, je me sentais pas bien, et du coup j'ai vraiment ressenti ce besoin, personnellement, de m'extraire, parce que j'avais pas envie de prendre de décisions impulsive, surtout. Et du coup, j'ai pris ce qu'on appelle une disponibilité pour convenance personnelle. Et j'ai arrêté, en fait, d'exercer. Je suis sortie de l'hôpital. Et ça m'a vraiment permis, bah, déjà, de prendre un petit peu soin de moi, parce que j'allais pas bien à ce moment-là. Et de faire un petit peu le point pour vraiment me dire, tiens, est-ce que ça me manque ? Est-ce que j'ai envie d'y retourner ? Ça m'a permis un peu de poser les bases et d'accéder à la deuxième clé qu'on va voir ensuite, le deuxième conseil. Il y a des personnes qui vont pas avoir cette possibilité-là de s'extraire complètement du travail, mais ça peut passer par des petites choses en fait. Ça peut passer par exemple par prendre des vacances, prendre des congés, peut-être un peu plus longs que d'habitude. On sait que c'est pas accessible à tout le monde, mais pour ceux qui savent qu'ils ont cette possibilité-là, ben, je trouve que c'est une bonne première clé pour vraiment se poser et réfléchir sans risquer de prendre une décision impulsive ou, voilà, ou autre.
Alors effectivement, Juliette, quand on a la chance de pouvoir avoir cette possibilité-là, c'est chouette. Moi, j'ai eu une expérience assez différente de la tienne parce que cette prise de recul, elle m'a été imposée. En fait, j'étais pas bien dans mon travail, ça faisait des années que je subissais ce travail-là. J'y allais pour avoir un salaire, mais j'y allais pas avec le plaisir. Et puis je me suis retrouvée dans une entreprise qui était en difficulté financière. Donc j'ai eu un licenciement économique. J'ai été licenciée, c'était pas une décision de ma part, mais ça m'a été imposé.
Mais c'était plus subi, quoi.
C'était subi, et du coup ça m'a permis de prendre ce moment de recul.
Malgré toi.
Malgré moi. Je me suis dit à l'époque que c'était le coup de pied aux fesses dont j'avais besoin, en fait. Que c'était finalement un cadeau de la vie mal emballé. Que c'était le moment de me poser des questions. En fait, je m'en posais déjà avant, mais c'était le moment de réfléchir clairement à qu'est-ce que j'allais faire de la suite. Et du coup, j'ai pris ce temps de réfléchir et de me dire, ok, est-ce que je retourne faire ce que je sais faire, bien gagner ma vie et avoir une vie confortable, ou est-ce que je décide de voir la vie autrement et de regarder ce que je pourrais faire d'autre qui me correspondrait plus. Et effectivement, ce moment de recul, cette pause, c'est un peu, ouais, c'est mettre pause avec la télécommande sur sa vie et de faire ce pas de recul, de prendre un peu de distance, de se mettre en position d'observateur, en fait.
Ouais, c'est
et
ça.
Se dire, ben, ok, la vie est comme ça, configurée comme ça, et voilà ce que je fais 8 heures par jour.
Et ça me fait penser, pourquoi il y a la grande démission aux États-Unis, pourquoi en ce moment, c'est un sujet hyper présent, et les gens ont un peu... on va dire que la problématique, on a l'impression qu'elle est plus présente qu'avant. Et si finalement, le confinement du coronavirus, du Covid, n'était pas une grosse prise de recul pour énormément de gens.
Exactement.
Enfin, tu vois, ouais. Ça me fait penser à ça, en fait.
Bah, complètement,
il y a plein de gens qui sont, du jour au lendemain, qui étaient la tête dans le guidon, pour reprendre l'expression du début,
ouais.
Qui, du jour au lendemain, se sont retrouvés confinés chez eux, qui ont beaucoup réfléchi. On va voir avec les autres clés,
ouais.
Ça a un peu tournicoté dans la tête et qu'ils se sont dit, mais en fait, là, je prends du recul et je me rends compte que ça ne me convient pas du tout.
Oui.
Et du coup, j'ai l'impression que le confinement, ça a été peut-être une grosse prise de recul pour tout le monde.
Oui, prise de recul générale de qu'est-ce qu'on fait, où on va et qu'est-ce qu'on va continuer à faire et on va y aller comment maintenant.
Ouais. Ensuite, après avoir pris du recul, c'est bien de prendre du recul, hein, c'est bien de s'extraire, mais ensuite, qu'est-ce qu'on fait? La deuxième clé qu'on pourrait vous conseiller, en tout cas qu'on a traversée toutes les deux, eh bien, c'est apprendre à se connaître. C'est faire ce travail d'apprendre à se connaître. C'est un peu de... Vous savez, quand on a besoin d'avancer, si on ne connaît pas la direction, on ne risque pas d'avancer. Un peu bête ce que je viens de dire, mais c'est la vérité, en fait. Si on ne sait pas où on va, on ne risque pas d'y aller. Et du coup, c'est un peu de se recréer, de se reconnecter à notre boussole intérieure. Et ça, ça va passer par un travail d'introspection. Et finalement, toutes les deux aussi, on est passé par ce travail-là. Et du coup, Maud, est-ce que tu peux nous détailler, par exemple, ce qui serait important à introspecter, justement? Quelles sont les questions un peu importantes qu'on peut se poser quand, justement, on fait un point sur sa vie professionnelle?
Moi, les questions que je me suis posées, c'est quoi mon comportement, mes préférences comportementales? Comment j'agis? Comment j'interagis avec le monde? Qu'est-ce qui est facile pour moi? C'est quoi mes talents naturels, en fait? C'est quoi mes domaines d'excellence? Après, il y a ce qu'on a appris à l'école et ce qu'on a appris durant sa carrière professionnelle, mais il y a aussi des talents naturels, des choses un peu innées.
On a tous des talents naturels, ouais. D'ailleurs. Hein, c'est...
Des choses qu'on peut aller exploiter, pousser un petit peu en profondeur et devenir encore plus excellent et devenir meilleur dans ces domaines-là. Donc, il y a ces préférences comportementales, comment j'agis. Et comment je communique avec les autres, qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui ne me convient pas, etc.
Est-ce que du coup, le métier dans lequel j'étais, finalement, il collait avec ma manière d'être? Ou alors est-ce que je me rends compte que, en fait, peut-être qu'il ne me convenait pas tant que ça?
Ouais.
Ça va permettre d'aller vers ça, en fait.
Ouais, exactement. Quel domaine d'activité correspond à ma manière d'être? Parce qu'on peut toujours agir contre son naturel, mais on se rend compte qu'on perd beaucoup d'énergie quand on fait ça. Du coup, c'est intéressant de savoir comment on est naturellement pour aller se repositionner là-dessus, en fait. Se repositionner sur qui on est vraiment et arrêter de porter un masque, de faire semblant, d'essayer de faire rentrer un rond dans un carré, en fait. D'essayer d'aller à un endroit où on n'est pas bien. Et l'autre point important, c'est de savoir quelles sont nos motivations profondes. Qu'est-ce qui me nourrit? Qu'est-ce qui fait que je me lève le matin avec le sourire? Qu'est-ce qui fait avancer mon moteur? Qu'est-ce qui est moteur? Qu'est-ce qui me nourrit? Et pour ça, il y a plein d'outils, il y a plein de manières de travailler là-dessus et on ne veut pas rentrer dans le détail forcément dans ce podcast. Mais c'est important de se poser ces questions-là. Qu'est-ce que j'aime vraiment?
Pour parler un peu de comment j'ai fait pour justement apprendre à mieux me connaître. Alors effectivement, il y a des outils, apprendre justement quels sont les types d'environnement qui nous conviennent, quels sont nos talents, du coup, dans quel type de métier on peut les vivre, ces talents-là. Et puis, quelles sont aussi les choses qui nous prennent de l'énergie, qui nous pompent de l'énergie, et du coup, est-ce que dans notre métier actuel, en fait, on est dans un truc qui nous prend trop d'énergie. J'ai aussi fait un gros travail sur mes valeurs. Alors les valeurs, ça pourrait ressembler un peu aux motivations profondes. Les valeurs, c'est tout ce qui est important pour nous. C'est les leviers motivationnels justement les plus importants. Quand on est connecté à ces valeurs, eh bien c'est ce qui nous fait nous lever le matin en fait. Et du coup, moi j'ai fait un gros travail sur quelles étaient mes valeurs. Quelles étaient notamment mes valeurs phares, parce qu'on a tout un panel de valeurs, on en a beaucoup, mais il y en a qui sont plus importantes que les autres. Et du coup, en prenant conscience de mes valeurs, parce qu'en fait, il y a pour beaucoup de personnes, les valeurs sont inconscientes. Hein. Il y en a qui sont assez, de manière assez spontanée, tiens, j'ai une valeur de liberté, voilà, c'est assez en conscience. Et puis, il y a des valeurs qui sont plus inconscientes. Et mettre en conscience ces valeurs-là, ça m'a permis vraiment de vérifier si je vivais mes valeurs au quotidien dans mon travail, ce qui n'était pas forcément le cas. Et ça m'a permis vraiment de voir qu'il y avait vraiment un désalignement. Et c'est ça qui me nourrissait pas, en fait. Et du coup, quand vous connaissez vos valeurs, ça vous permet de voir si dans votre métier, vous incarnez ces valeurs-là. Et si elles sont pas incarnées, est-ce que c'est une histoire d'entreprise? Est-ce qu'en fait, je suis pas alignée avec les valeurs de l'entreprise et en fait, le métier me convient? Ou alors, est-ce que c'est le métier qui me convient pas et que j'ai besoin d'aller incarner mes valeurs dans un autre métier? Ça, c'est aussi quelque chose qui m'a pas mal aidée.
Pour le dire autrement, vous pourriez vous poser la question « Qu'est-ce qui est non négociable pour moi ?» Ça, c'est vraiment une question importante à se poser. À partir de maintenant, qu'est-ce que je décide qui devient non négociable ? Qu'est-ce qui est vraiment important ? Et du coup, ça guide, c'est une boussole pour la suite.
Du coup, si je reprends, il y a le premier conseil, ce serait la prise de recul. Le deuxième conseil, ce serait apprendre à se connaître, à mieux se connaître, faire de l'introspection. Et puis, troisième conseil, ce serait, eh bien, au regard de cette introspection, c'est travailler sur soi. Et notamment, prendre conscience qu'on peut être confronté à des freins dans l'idée de changer d'entreprise ou de changer même de travail, qu'on est confronté à des peurs, qu'on est confronté à des croyances. Et du coup, il va falloir aussi travailler la confiance en soi. Est-ce que tu peux nous parler un peu des croyances, Maud ?
Eh bien, oui, effectivement, une croyance, c'est quelque chose qu'on croit, C'est quelque chose, c'est une idée à laquelle on a accordé de l'attention finalement. C'est quelque chose qui nous vient de notre enfance, notre éducation, de ce qu'on a pu voir autour de nous et valider autour de nous. Des croyances, on en a plein, on en a tous et c'est normal. On est tous construits par tout un tas de croyances culturelles, familiales, sociétales, etc. Et des croyances, on en a plein qui sont aidantes et on en a aussi plein d'autres qui sont limitantes. Mais aujourd'hui, on sait qu'on a tendance à voir ce qu'on croit. C'est-à-dire que notre cerveau, de manière assez automatique, va valider ce qu'on croit. C'est-à-dire qu'il va voir.
Il va faire le zoom.
Il va faire le zoom sur tout ce qui vient valider une croyance en nous. Et du coup, on peut imaginer que si on a une croyance qui est plutôt limitante, par exemple, je pourrais me dire que je suis trop âgée pour me reconvertir.
Ouais, ça c'est une croyance qui peut revenir. Ouais.
Ouais.
C'est limitant du coup, parce qu'on se dit je suis trop vieux donc je me reconvertis pas, je subis mon insatisfaction.
Ouais. Et si à 40 ans on se dit, on a cette croyance là que effectivement c'est trop tard pour se reconvertir, on va avoir tendance à voir ça autour de nous, c'est-à-dire à voir que des gens assez vieux du coup vont pas se reconvertir. Et à faire l'impasse sur toutes les personnes qui viennent invalider cette croyance et à pas le noter. En fait, notre cerveau ne va même pas voir ça. Pourtant, il y a plein de gens autour de nous, certainement, qui à 40 ans ou après 40 ans se sont reconvertis. Et du coup, je vous dis tout ça parce qu'en fait, c'est hyper intéressant de travailler sur ces croyances parce que c'est des barrières mentales. C'est des blocages, des barrières qu'on a à l'intérieur de notre cerveau. C'est absolument pas vrai, hein. Ces croyances, il n'y a rien qui prouve scientifiquement qu'elles sont vraies ou qu'elles sont fausses. Par contre, il y en a qui nous font avancer, puis il y en a d'autres qui nous maintiennent sur place. Et ces croyances limitantes, elles vont avoir un impact sur nos comportements et sur nos capacités. C'est-à-dire que si dans ma tête, c'est une évidence, c'est une certitude que je suis trop vieille pour me reconvertir, je ne vais même pas essayer de développer des comportements ou des capacités pour mettre en œuvre cette reconversion. Je ne vais pas prendre ce risque-là et ce temps-là. Donc ça fait partie, effectivement, du travail sur soi, d'identifier nos croyances, de voir comment elles sont arrivées là. Elles nous viennent de qui, ces croyances? Parce qu'elles nous viennent forcément de quelque chose.
Ça peut être la famille, l'entourage, la société.
Exactement. Et de les déconstruire. Et de pouvoir remettre du doute dans ces croyances. Parce que le doute, il est permissif. Si je doute d'un seul coup qu'à 40 ans, c'est possible de se reconvertir, ça me fait envisager les choses autrement. Je peux me dire, ah ok, en fait, il y a plein de personnes à 40 ans qui se reconvertissent, et à 50 aussi, et à 60 aussi. Du coup, ça voudrait dire que je pourrais me reconvertir à 40, et puis en fait, à 50, faire encore un autre métier, et à 60, encore un autre métier, et ça ouvre le champ des possibles.
Ça me fait penser aussi à une autre croyance limitante qui peut se présenter dans ce cas-là, c'est je ne suis pas capable de faire un nouveau métier, ou je ne suis pas capable d'apprendre un nouveau métier. Eh bien, si on se raconte ça, si on est persuadé qu'on n'est pas capable de faire un nouveau métier, de recommencer à zéro, effectivement, on va être hyper freiné. Et ça va faire trop peur de changer. Et le cerveau, par souci de cohérence, il va aller confirmer ça dans notre environnement. Alors que on pourrait imaginer des personnes qui ont la croyance aidante que on peut faire plusieurs métiers dans sa vie et que à chaque âge on peut réapprendre un nouveau métier. Là du coup c'est vachement plus agréable et on se projette beaucoup plus dans le changement. Donc en fait il y a plein de croyances. Peut-être vous pouvez vous poser la question, tiens moi quelles sont mes croyances qui me freinent? En fait là, quand on travaille sur soi, on va mettre aussi la réflexion sur les croyances qui sont aidantes, parce qu'on va se servir de ça. Mais il faut aussi avoir conscience des croyances qui sont limitantes, parce que c'est celles qui nous freinent et celles qui alimentent la peur de changer. De changer d'entreprise, de changer de job, voilà.
Vous connaissez peut-être cette citation, je me souviens plus, tu te souviens peut-être, Juliette. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et c'est vraiment ça, en fait. Si je sais pas que ce n'est pas possible, je mets tout en œuvre pour réussir. Ça va vraiment être la clé pour la suite, hein, quand on est dans un processus de reconversion professionnelle ou dans de l'introspection, mais pour toute sa vie en fait. De venir dégommer ses croyances, quoi. Ok, celle-là, est-ce qu'elle me sert ou est-ce qu'elle ne me sert pas? Qu'est-ce qui pourrait changer dans ma vie si finalement je regardais les choses autrement? Si je me mettais à croire autrement ou l'inverse, qu'est-ce que ça me permettrait de faire? Et d'un seul coup, ça ouvre un champ mais incroyable de possibles devant soi. c'est vraiment une étape primordiale de travailler là-dessus.
La deuxième étape, je trouve, qui est, alors pour le travail sur soi, il y a plein de choses à travailler, et puis bien sûr c'est en fonction des personnes, mais en tout cas pour Maud et moi, on avait évoqué du coup ses croyances, et puis la confiance en soi. Parce que quand on veut changer de métier, on peut ne pas avoir confiance. Pourquoi? Parce que déjà on peut ne pas avoir confiance en soi-même. On peut avoir aussi ne pas avoir confiance en soi pour en parler à son entourage. J'étais en médecine et j'ai dû dire à tout le monde que je voulais quitter médecine. Et ben, il a fallu que je travaille un petit peu ma confiance en moi. Et puis surtout, d'affronter le regard des autres. Le regard des autres aussi, c'est hyper important. Quand oui. On veut soit changer d'entreprise, qu'est-ce que les collègues vont dire, ou changer même de métier, qu'est-ce que vont dire les autres.
Et puis quand on n'est pas sûr de soi, on a tendance à aller demander l'avis des autres pour aller conforter ce qu'on ressent. Et effectivement, les gens vont se donner un grand plaisir de nous donner leur avis, mais leur avis teinté de leurs propres croyances et de leurs propres peurs. Ouais, du coup, il faut faire attention à demander l'avis des autres. C'est pas toujours une bonne solution et il faut faire attention à quel avis on décide d'écouter ou quel avis on décide de mettre de côté.
C'est ça, c'est prendre l'avis des personnes, mais avec un certain recul aussi. Parce que chacun va avoir son propre prisme, ses propres filtres, et du coup, ces personnes-là ne sont pas vous. Et ces personnes-là ne sont pas à votre place dans votre métier qui vous insatisfait aujourd'hui.
Ouais.
En tout cas pour ceux qui sont concernés.
Moi, si j'avais écouté les gens autour de moi à l'époque qui me disaient « Oh là là, mais tu vas pas faire hypno, il y en a trois par rue, de toute façon, les gens, ils ont peur, ils viendront pas, ou alors... il faut 5 ans pour se faire une clientèle, etc. Tu vas pas réussir à en vivre. » Si j'avais écouté toutes les croyances limitantes des gens, toutes les peurs et tous les retours de mon entourage, j'aurais jamais osé me lancer. Donc il faut faire un espèce de tri dans ce que nous disent les gens et de dire, ben, ok, toi tu penses qu'il faut 5 ans pour se faire une clientèle ou toi tu as mis 5 ans pour te faire une clientèle, ok. Mais je ne suis pas toi, et moi j'ai pas 5 ans, donc je vais pas mettre 5 ans. Et se faire confiance, et travailler cette confiance.
Du coup, travailler sur soi, travailler sa confiance en soi, parce qu'on peut être freiné, parce qu'on se sent pas capable, on n'a pas assez confiance pour se projeter, notamment vers l'inconnu. Il y a une phrase qui dit que le cerveau préfère un connu inconfortable qu'un confort inconnu. Ça fait toujours peur de se lancer dans un changement, dans quelque chose qui est inconnu, dans se relancer dans des entretiens, dans le fait d'aller dans une nouvelle boîte, ou alors pour certaines personnes de faire un revirement de situation et de changer de travail. Ouais, ça fait peur. Il y a plein de choses qui bougent à ce moment-là, c'est un changement, c'est une transition de vie pour certains. Et ça, ben, ça demande un petit peu de confiance en soi. Alors il y a des personnes qui ont énormément confiance en elles, et super, il n'y aura pas besoin de travailler ça, tant mieux. Personnellement, c'est quelque chose que j'ai dû travailler. Ben voilà, parce que ça n'a pas été simple de partir de médecine, de me confronter aussi au regard des autres, d'assumer ma position. Et il a fallu que je travaille un petit peu cette confiance en moi pour assumer mon choix, le dire au monde et puis le concrétiser. Voilà, donc si je reprends encore, comme ça vous suivez un petit peu le fil de notre pensée, il y a cette première clé ou ce premier conseil qui est la prise de recul, ensuite apprendre à se connaître et puis ensuite travailler sur soi. Alors qu'est-ce que c'est la dernière clé ou le dernier conseil ?
Avant de passer à ce dernier conseil, peut-être qu'après toutes ces étapes-là, vous vous êtes dit bah, en fait je crois que j'aime mon métier. Je crois qu'en fait le problème il est ailleurs. Je crois que peut-être c'est l'entreprise dans laquelle je suis qui a pas les mêmes valeurs que moi et qui et en fait faudrait juste que je change d'entreprise. Mais mon métier je l'aime. Ou alors peut-être que j'aime mon métier, je suis bien aussi avec mes collègues et l'entreprise dans laquelle je suis, mais c'est juste que j'ai pas su poser mes limites et que mon rythme de travail est trop élevé et du coup je peux réadapter ça, mais qu'en fait je me sens bien dans ce que je fais là. Ce travail d'introspection, il amène pas forcément à une reconversion totale. Par contre, il permet d'identifier les points clés sur lesquels on a à travailler.
Mettre le focus sur ce qui va pas, en fait.
Ouais. Et peut-être, je dirais même, que ça peut être encore quelque chose. Ça pourrait être, en fait, ce qui va pas, c'est ma vie perso. mais en fait au boulot ça va. Et ça peut être encore autre chose. Mais justement, ces phases-là, elles permettent d'identifier, de mettre le regard sur ce qui va pas. Et donc la dernière étape, c'est passer à l'action. Et parfois même que ces étapes, elles se chevauchent l'une l'autre. C'est-à-dire que des fois, pour travailler sa confiance en soi, eh ben, il faut passer à l'action. Parce que c'est en faisant que je prends confiance. Et ce passage à l'action, il commence par définir un objectif. En fait, je passe à l'action, mais pourquoi ? C'est quoi mon objectif ? Je veux quoi ?
Si on connaît pas le chemin, si on sait pas où on va, on risque pas d'avancer.
Voilà, c'est ça. Et cet objectif, il peut être un peu lointain, il peut faire peur, parce qu'il peut être énorme.
Un peu comme une grande montagne, voilà. Un sommet d'une montagne, ça a l'air hyper cool, hein, ouais. Le sommet, mais ça fait un peu flipper.
Voilà, ça fait flipper parce qu'il y a tout ça à gravir. Et du coup, il faut avoir cet objectif en arrière-plan, en tâche de fond. Mais pour avancer, il faut découper tout ça en petits pas. Des petits pas, toujours un peu challengeants, mais accessibles. Vous avez peut-être déjà vu cette image qui tourne pas mal sur les réseaux sociaux où on voit un petit bonhomme qui veut grimper en haut d'une échelle. Effectivement, si les barreaux sont rapprochés, il arrivera à atteindre le sommet de l'échelle. Mais si les barreaux sont trop éloignés, il pourra pas monter jusqu'au sommet. Et c'est pareil pour nous. En fait, si l'objectif est trop loin ou est trop difficile, on pourra pas avancer. Et on va procrastiner et on va retomber dans nos peurs et dans nos blocages. Par contre, si chaque jour j'ai un petit pas à faire, je sais que, ok, aujourd'hui je fais quoi ? Et demain je fais quoi ? C'est quoi qui est toujours accessible, qui me challenge un petit peu, mais qui est accessible ? Et dans ce cas-là, quand j'avance dans le moment présent, sans jamais trop regarder le sommet de la montagne, jour après jour, en découpant en fait cet objectif en petits pas, et souvent on se rend compte que quelques semaines, quelques mois plus tard, quand on se retourne, on se dit « il s'est passé tout ça en fait ». Et moi ça a été exactement ça dans mon expérience.
De reconversion,
ouais. De reconversion, ça a été « ok, c'est quoi mon petit pas ?» Alors j'ai eu besoin de me faire aider moi pour faire tout ce travail, ça a été difficile. Et j'en avais déjà parlé dans un premier épisode.
T'avais fait un bilan de compétences.
J'avais fait un bilan de compétences et j'avais eu besoin d'un guide. Et c'est complètement ok. Toi, Juliette, tu l'as fait différemment, mais tu nous en parleras tout à l'heure. Et dans ces petits pas, y a eu ce bilan. Et après, il y a eu tout un tas de formations, de rencontres, etc. Et j'ai jamais regardé trop loin devant, parce que ça me faisait très peur. Mais je savais, le mois prochain, j'ai ma formation qui commence. Je vais faire ça, etc. Et finalement, un an après, quand je me retourne, je me rends compte que ça y est, je suis praticienne en hypnose, que j'ai mon cabinet. À Annecy, que j'ai un cabinet à Genève, que je commence à faire de la formation, que je pratique l'hypnose mais que je fais aussi du coaching, que j'ai créé un podcast, etc., etc. Si on m'avait dit qu'il fallait atteindre tout ça, j'aurais déjà jamais cru que j'allais faire tout ça et ça m'aurait paru trop gros, trop impossible à atteindre. Mais j'ai avancé en essayant de lâcher prise, dans le sens où j'ai essayé d'être dans le moment présent. À chaque fois que je commençais à être submergée par mes peurs, parce qu'il y en a eu, de me refocaliser sur le moment, de respirer profondément par des exercices, etc., d'aller marcher, d'aller faire du sport, pour me dire, ok, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui ? Qu'est-ce qui est en mon pouvoir aujourd'hui ? Le reste, c'est pas grave. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire ? Et comme ça, j'ai su avancer. Toi, Juliette, ça s'est passé comment ?
Alors moi, mes petits pas... Alors, effectivement, moi, je me suis rendu compte que j'étais trop insatisfaite dans ce métier de médecin et tout ça, le truc, c'est que je savais pas quoi faire après. Et c'est vrai que, on va dire que c'est les deux premières clés qui m'ont permis un petit peu d'essayer de me projeter justement sur ces métiers de l'accompagnement, sur les métiers du coaching. Et sauf que, comme toi, je pense que si j'avais regardé le haut de la montagne directement, ça m'aurait fait trop peur, ou en tout cas, ça m'aurait trop impressionnée, ou je me serais trop demandé, mais oh là là, mais quel est le chemin pour ? Et du coup, c'est vrai que j'ai avancé aussi par des petits pas, qui ont été progressivement de la formation, progressivement essayer des choses aussi, essayer certains types d'accompagnement, essayer certains outils, découvrir de nouveaux outils, tout ça, ça s'est fait assez progressivement en fait. Et je suis aussi passée, ça c'est des petits exemples pour vous, qui pourraient vous aider par exemple, moi des petits pas qu'ont été les miens, ça a été de, ben, par exemple, de faire des enquêtes métiers. C'est par exemple de me dire « Oh tiens, il y a tel métier qui pourrait me plaire ou tel métier qui me pourrait plaire. » Bon ben concrètement, qu'est-ce que je fais là pour passer à l'action ? Eh ben, je prends contact avec des professionnels de ce métier-là et je leur pose plein de questions. C'est quoi les avantages du métier ? C'est quoi les inconvénients du métier ? Moi, le gros problème que j'avais, c'est que j'étais tellement pendant longtemps persuadée que je serais hyper bien dans ce métier de médecin, c'est comme si j'avais perdu toute confiance en moi, dans ma capacité à me faire confiance à mon jugement. C'est comme si je me disais « Oh, je me projette trop bien dans ce travail », mais en fait, ça se trouve, je serais aussi déçue. J'avais un peu ce truc-là, tu vois. Et du coup, je me disais « Oh là là, je me projette vachement bien dans ce métier d'hypno. » Ouais, mais en fait, ça se trouve, ça va faire comme médecine, ça va me décevoir. Et en fait, ce qui a le petit pas, pour le coup, concret qui m'a aidé à surmonter ça, ça a été, entre autres, de faire ces enquêtes métiers, de rencontrer des professionnels, de leur poser toutes les questions, voire même faire, comme toi, t'as fait, Maud, de l'immersion.
Oui.
Toi, t'avais fait avec une infirmière, c'est ça ?
Ouais, moi, je m'étais toujours raconté, comme ça me plaisait plus, le digital marketing, je m'étais dit, ah, mais depuis longtemps, je sais pas, je voulais faire infirmière, peut-être je vais faire infirmière. Ça me trottait à l'esprit depuis des années, cette histoire d'infirmière. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, c'est l'occasion, je vais commencer à regarder les formations, etc. Et puis, je me suis dit, peut-être avant d'aller faire infirmière, ça serait bien de faire une immersion avec une infirmière pour aller voir ce que c'est concrètement son métier au jour le jour. Qu'est-ce qu'elle fait de sa journée d'infirmière, quoi. J'ai eu la chance de passer une journée avec une infirmière libérale passionnée par son métier, qui faisait ça depuis des années et qui adorait faire ça. Et du coup, j'ai passé une journée entière à suivre sa tournée, à regarder tous les actes qu'elle faisait, etc. Et vraiment, je suis hyper reconnaissante qu'elle m'ait laissé cette place et que j'ai pu assister à tout ça. Et ça a été super, une super expérience, parce que ça m'a permis d'éliminer cette piste. C'est-à-dire que je me suis dit, ok, cette femme adore ce qu'elle fait, mais alors je m'y projette pas du tout. En fait, ça ne me plaît pas du tout. C'est pas du tout ce que j'imaginais. Et parfois, dans son passage à l'action, quand on ne sait pas vers quoi on veut aller, on peut déjà commencer par éliminer des pistes. Et ça permet de faire le tri, en fait. Parce que moi, ça c'était dans ma tête, et j'avais l'impression que tant qu'il y avait cette idée-là, je ne pouvais pas envisager autre chose. Et le fait d'éliminer ça, de passer une journée avec une infirmière, et de voir que finalement, c'est pas ça, ok, super, c'est pas ça. Donc, je peux envisager le reste. Et ça a aidé, en fait. Ces immersions, ça permet de conforter une idée ou d'éliminer une idée. Et les deux permettre d'avancer, en fait. Ok, je sais, je vais pas faire infirmière, mais j'ai avancé. J'ai pris une décision. C'est pas celle d'aller faire des études d'infirmière, mais c'est de faire autre chose.
Ouais. Et je me rends compte, tu vois, en parlant de ce passage à l'action, en ce qui me concerne, j'ai toujours fait les choses très progressivement, en fait. Hein. Me questionner sur des métiers, voir si ça colle avec mon profil, à mes talents, à ce que j'ai besoin, moi, pour me sentir épanouie. Est-ce que ça colle aussi avec mes valeurs ? Si oui, bah tiens, je vais aller me projeter auprès de professionnels, concrètement, pour vivre un peu le métier, ou en tout cas avoir leur retour. Et puis progressivement, si ça me plaît, c'est quoi le next step ? Me renseigner sur les formations, concrètement, trouver des écoles sérieuses. Tout s'est fait, en fait, par petits pas. Et on m'aurait dit, ok, ce que t'as envie de faire, c'est d'être praticienne en hypnose et en PNL et faire du coaching et la méthode cohérence et tout ça, d'un coup comme ça, ben, je pense que ça m'aurait impressionnée. Et puis surtout, je me serais dit, mais je suis pas sûre que c'est ça que j'ai envie de faire. Et du coup, ce quatrième conseil, c'est vraiment mettre du concret dans toute votre démarche. Parce que c'est bien de réfléchir. Mais comme dit Maud, la confiance en soi, elle vient aussi de la mise en action. Et puis de l'essai-erreur. Voilà. Tu te projettes dans le métier d'infirmière. Ok, bah, je me suis trompée. En fait, c'est pas ça. Bon, bah, c'est quoi le next step ? C'est vraiment ça. Gagner en confiance. Et faire votre expérience concrètement sur le terrain. Pour voir si c'est ok ou si c'est pas ok.
Et un conseil là-dedans, c'est d'aller sélectionner des professionnels qui aiment leur métier. N'allez pas passer une journée avec quelqu'un qui est déjà en bout de course, à bout de souffle et qui est en perte de sens dans ce qu'il fait, parce que du coup vous allez être influencé par son état d'esprit et son émotion. Autant aller voir quelqu'un qui même s'il n'est pas passionné, mais qui aime ce qu'il fait. Comme ça, vous faites un choix éclairé. Vous faites un choix de, ok, concrètement, la personne, elle fait ça, ça, ça de sa journée. Est-ce que je me vois là-dedans ou pas? Et je ne suis pas influencée par la mauvaise humeur de la personne ou par le fait qu'elle en ait marre de faire ça parce que ça fait déjà 20 ans qu'elle le fait.
Et dans cette mise en action, c'est bien aussi parfois de se sentir soutenue. Et ça, peut-être que toi, Maud, aussi, tu l'as eu. Mais ça me fait penser aussi à en parler à ses proches, en parler à ses amis, se faire accompagner et soutenir par sa famille. Ça fait toujours du bien. Parfois, on n'ose pas trop parler qu'on a envie de changer, qu'on est insatisfait. On se sent parfois ingrat de vouloir changer un métier qui est super, avec une sécurité financière, avec un super métier. Je pourrais rajouter, c'est un peu la dernière clé, le cinquième conseil, c'est en parler. Parce que ça fait du bien en fait aussi de sortir un peu tout ça. Parfois on est épuisé, parfois on sent un mal-être qui s'installe parce qu'on est trop insatisfait au travail. Et peut-être que la réponse sera pas d'ailleurs le changement de boulot, hein, encore une fois. Mais en parler, ça permet d'extérioriser tout ça, de mettre un peu de distance, de pouvoir avancer plus sereinement.
En parler, mais en parler aussi à des personnes qui vont nous soutenir. On dit qu'on est la somme des 5 personnes qui sont les plus proches de nous, qui nous entourent. Effectivement, si mes proches, mes amis sont des gens plutôt pessimistes, qui croient pas en mon projet...
Oui, bien sûr, il faut mettre cette nuance.
qui ont peur, qui sont pleins de bocages et qui eux-mêmes n'ont jamais osé sortir de leur zone de confort et qui du coup ont peur pour nous, ils vont peut-être nous limiter ou en tous les cas nous empêcher ou nous ralentir dans ce changement. Donc c'est important de s'entourer de personnes qui ont peut-être traversé
la
même chose ou qui vont nous accompagner positivement dans ce changement. C'est pour ça que c'est important parfois de se faire aider. Et moi, j'ai eu besoin à un moment donné de me faire aider par des gens qui avaient aussi traversé ça et dont c'était le métier, l'expertise. C'est pour ça que je vous dis, c'est ok de faire ça et parfois c'est vraiment aidant. Je suis pas en train de dire que ma famille m'a pas soutenue, hein. C'est pas du tout le cas, mais...
Non, mais t'as raison, on en parlait dans les croyances. On va avoir des parents qui ont très peur du choix de leurs jeunes adultes, enfants, de changer de voie et tout ça.
Donc voilà, je mets juste un petit bémol. En parler, s'entourer, mais des personnes qui vont... nous aider à le faire.
Être bienveillante avec nous et être... nous laisser notre objectivité. Voilà, c'est ça. Voilà, on a un peu fait le tour de toutes ces... De tout... Alors, ce sont nos conseils, bien sûr, qui viennent de notre expérience. Ce sont ces 4 clés plus la 5e, je dirais, de se faire soutenir. On espère que soit, si vous êtes dans ce cas, d'être insatisfait au travail, ça vous aura donné directement pour vous des clés. Et puis, si vous connaissez quelqu'un qui est insatisfait, ça pourra permettre peut-être pour vous de lui donner quelques conseils ou peut-être de l'aider à votre manière. En tout cas, voilà, c'était important pour nous de parler de ce sujet-là parce que on l'a vécu toutes les deux. Je pense qu'on n'est pas les seuls.
Et oui, ça nous tient à cœur. Ce sujet-là nous tient à cœur parce que ça, forcément, c'est des gros moments de vie, des gros changements de vie, des grosses étapes.
Des grosses transitions
de vie. Et c'est important d'en parler, de revenir dessus et de pouvoir partager ces clés-là avec vous. Parce que si on avait eu ça dès le départ, peut-être qu'on aurait été plus sereine.
Rassurée.
Dans ce cheminement.
Ouais.
Ouais, c'est ok de traverser des moments difficiles. Et puis surtout, je vais sortir de ça, en fait. À un moment donné, il y a la lumière au bout.
Voilà, on arrive à la fin de ce podcast qui est certes un petit peu plus long que ce qu'on avait prévu parce qu'on avait beaucoup de choses à vous partager. N'hésitez pas à nous faire un retour dans des commentaires ou personnels si ce podcast vous a intéressé, si ce podcast vous a plu. En tout cas, on espère, avec notre expérience à nous, nos petites clés, vous avoir transmis des choses intéressantes pour vous. Et on se retrouve dans 15 jours pour un prochain épisode.